Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On va parler de plein de petits trucs, comme d'habitude. On va essayer d'être un petit peu dans le thème avec le confinement, évidemment, pour continuer de vous donner des petites infos, des petites astuces, etc. Alors, avant de commencer, vous savez le petit rituel, je vous dis ce qui est sorti ce week-end sur le site. Ce week-end sur le site est sorti un contenu spécial pour le petit déjeuner. Alors, ça s'appelle petit déjeuner idéal, salé ou sucré, mais santé ou healthy ou comme vous voulez. En fait, le but de ce contenu-là, c'était de vous montrer un petit peu comment apporter le maximum d'efficacité à votre petit déjeuner. Je m'explique en deux mots. Si vous avez plutôt une matinée sédentaire et productive, on va dire par exemple étudiant, étudiante, télétravail, toutes ces choses-là, vous devez avoir un petit déjeuner qui est axé performance plutôt mentale, alors que si vous avez une matinée qui est plutôt physique, donc travail physique, bon en ce moment c'est pas trop le cas puisque personne peut sortir, mais travail physique ou sport le matin tout simplement, eh ben le petit déjeuner est également différent et il y a un petit déjeuner qui sera optimisé pour la performance physique. Donc voilà, après bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a qui peut sauter le petit déjeuner, comment sécher plus rapidement avec ou sans petit déjeuner, une version liquide ou solide pour le petit déjeuner, la formule qui fonctionne, quelle est l'heure idéale pour prendre son petit déjeuner, et oui, il y en a une, comment donner du goût sucré à son petit déjeuner sans édulcorant, ni sucre, etc. Après ouais, il y a 50 petits déjeuners à travers le monde que j'ai analysés et que j'ai retravaillé pour vous donner des versions saines. Ça c'est toute la fin de la formation, ça prend vraiment pas mal de temps. Et après je parle rapidement aussi de la théorie de la compétition digestive entre vous savez les associations des aliments, etc. Voilà. Donc tout ça c'est en ligne sur le site. Vous avez le lien en description et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Bon. On démarre un petit peu cet épisode avec quelques petites données que j'ai trouvées qui me paraissent intéressantes. Alors le premier truc, c'était étude de l'impact des missions spatiales à longue durée sur le microbiote des astronautes. En fait, ils disent qu'ils présentent la preuve montrant que les communautés microbiennes du tractus gastro-intestinal, de la peau, du nez, de la langue changent au cours des missions spatiales. Alors bon, bref, ça, évidemment, mission spatiale veut dire environnement complètement différent, et donc forcément, il y a une variation au niveau du microbiote, donc des petites bactéries qui peuplent notre sphère digestive. Et bon, c'est pas tout le monde qui va partir dans l'espace, mais moi, ce que je vois, pour faire un lien, et il faut pas faire un lien mot pour mot par rapport à eux, parce que l'environnement n'est pas du tout le même, mais on peut penser que le changement... Alors là, ça, c'est mon point de vue, et peut-être que ça pourra amener une piste de réflexion à pas mal de personnes. Actuellement, on est tous confinés. Et donc, pour beaucoup de personnes, l'alimentation a changé. C'est-à-dire que le fait de ne plus manger à la cafette du boulot ou au restaurant ou de manger finalement ce qu'ils mangeaient quand ils étaient au boulot, aujourd'hui leur diète diffère. Ils sont à la maison, ils vont se cuisiner des choses, ils vont acheter peut-être des aliments qui sont différents dans le sens où voilà, ils ont peur de manquer, donc ils vont prendre plutôt, je sais pas, des produits secs, des produits en conserve, etc. Toutes ces choses-là vont indirectement avoir un impact, ou directement même, un impact sur le microbiote. Donc, c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans le système digestif. Et ces bactéries que l'on a, la diversité du microbiote, est plutôt synonyme de bonne santé. Donc, c'est-à-dire que quand on a une bonne diversité, on a moins de dépression, moins d'anxiété, moins de problèmes de santé divers et variés, moins de surpoids également. Donc, moi, ma théorie, en gros, ce serait que sorti de ce confinement, ou alors pendant, si c'est possible, peut-être essayer de se tourner vers des probiotiques, ou alors d'essayer d'avoir le maximum finalement de variabilité dans les aliments qu'on choisit quand on fait ses courses. Mais ça, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que il y a peut-être une piste avec les probiotiques et le confinement pour continuer à entretenir, on va dire, un bon microbiote intestinal. Bon, ça c'était la petite réflexion que j'ai eue par rapport à ça. Après, chacun apportera un petit peu ses idées sur le sujet. Moi, je pense que c'est une démarche que je vais avoir parce que je pense que au-delà de l'alimentation, il y a également l'environnement. L'environnement, quand on est confiné comme ça dans un environnement, on va dire en plus actuellement de plus en plus stérile puisque on se lave les mains, etc. Alors, en ce moment, c'est une priorité, c'est-à-dire que quand on jauge une situation, c'est toujours bénéfice-risque. En ce moment, il y a plus de bénéfices à avoir les gestes barrières, on va dire, se laver bien les mains, etc. Mais ça a un impact quand même sur ces petites bactéries qui peuvent être profitables, on va dire, pour l'organisme. Donc, il va falloir par la suite, en sortant de cet environnement plus ou moins stérilisé, il va falloir, je pense, avoir des comportements qui vont dans le sens du rééquilibrage de toutes ces petites bactéries. Bref, on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est Impossible Food. Alors, Impossible Food, c'est une marque. Le roi du burger végétal confirme son hégémonie. Donc, j'avais noté, alors que l'économie mondiale tremble sous l'expansion foudroyante du coronavirus, Impossible Food continue à afficher des résultats au beau fixe portés par l'intérêt croissant pour les substituts de viande et l'éveil de la conscience écologique. Donc en fait, ça c'est une marque qui propose des steaks qui ne sont pas des steaks, qui sont faits à base de plein de choses qu'on va voir d'ailleurs. Et là on parle pas de santé, on parle bien de conscience écologique et de substitut de viande. Moi je me suis juste intéressé à une chose, c'est pas à moi de juger ou pas, je me suis juste intéressé à une chose, c'est aux ingrédients de cette viande qui n'en est pas. Et en fait, j'ai trouvé sur leur site la liste des ingrédients pour leur substitut de viande. Nous sommes avec premier ingrédient de l'eau, ensuite concentré de protéines de soja, huile de noix de coco, huile de tournesol, arôme naturel, 2% ou moins de protéines de pommes de terre, méthylcellulose, extrait de levure, dextrose cultivée, donc du sucre, hein, dextrose cultivée, amidon alimentaire modifié, l'hémoglobine de soja, sel, isolate de protéines de soja, tocophérol mélangé, gluconate de zinc, chlorhydrate de thiamine, ascorbate de sodium, niacine, chlorohydrate de pyridoxine, riboflavine et vitamine B12. Et ils disent que ça contient du soja. Moi, ce que je vois là, c'est que comparé à un morceau de viande, un morceau de viande, ça reste non transformé. Là, on est quand même sur un produit relativement transformé. Après, chacun a ses convictions, ses principes, etc. Moi, j'ai rien contre contre le régime vegan pur, un petit peu quand même, parce que je pense que au niveau santé, c'est pas optimal, ou tout du moins, c'est très compliqué d'être optimal en termes d'acides aminés, etc. Et je fais pas l'amalgame entre vegan et végétarien. Végétarien, à mon sens, est beaucoup plus cohérent. Vegan, là, je trouve que ça devient complexe, surtout pour un sportif, mais pas que. Et là, on tombe vraiment dans un petit peu la problématique du régime vegan ultra transformé. Et souvent, quand on souhaite plus. Alors, quand il n'y a pas le facteur santé qui rentre en compte, on s'en fout. On fait du vegan, on mange tout sauf des produits animaux et dérivés. Ok, bon, c'est un choix. Les gens ne veulent pas être en santé, ils veulent juste faire un régime où ils mangent pas de viande. Ça peut être un choix. Moi, je veux juste mettre un petit bémol pour les personnes qui pensent faire attention à leur santé en faisant ça. Sachez une chose, c'est que des aliments ultra transformés, ça par contre c'est démontré que ça réduit l'espérance de vie. Et là on est quand même sur des aliments, alors je pas eux forcément, parce que je les connais pas plus que d'autres, hein. Mais là, la liste que je viens de donner, ça ressemble plus à une liste d'un aliment transformé que un œuf, par exemple, ou un blanc de poulet ou autre. Après, bon, voilà, chacun y verra midi à sa porte, c'était juste pour donner un petit peu d'informations par rapport à ça. Alors, autre sujet, j'ai regardé rapidement un live de Gundil, Michael Gundil sur YouTube, où il parlait arrêter de manger des œufs, où lui, comme beaucoup, se sont rendus compte que les œufs étaient de moins en moins présents dans les rayons, enfin surtout la semaine dernière. Moi, j'ai pas été impacté personnellement parce que j'avais ma petite réserve entre guillemets. Déjà d'une, j'en mange pas beaucoup. Actuellement, pendant le confinement, je suis descendu à 2 par jour, alors que d'habitude, je suis à 3 ou 4. Bon, je prévois un petit peu le coup, c'est-à-dire que je prends une boîte de vin, donc ça me dure quelques temps. Donc j'ai été dans le bon timing en fait. J'ai pas subi la pénurie, mais lui si apparemment, et d'autres aussi. Donc en fait, inutile de craindre la pénurie d'œufs, ils disent. Au cours des 2 dernières semaines, les commandes d'œufs de la grande distribution ont explosé de 60%. Le CNPO, alors le CNPO, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai mis, à quel endroit je vous l'ai mis d'ailleurs? Je sais plus, mais en tout cas, c'est, alors zut, il faut que je le retrouve, parce que sinon, ça va pas être intéressant pour vous. Alors CNPO, c'est l'organisation du Comité National pour la Promotion de l'œuf. Voilà. Donc en fait, eux, ils ont fait un petit récap entre guillemets, et donc le CNPO tient pour autant à rassurer en précisant que des œufs sont produits tous les jours et qu'aucun phénomène de pénurie n'est à craindre. Le personnel s'occupant des couvoirs, mais aussi des élevages ou encore de l'emballage des œufs, poursuit son activité et abreuve les Français pour leurs recettes familiales. Donc voilà, je pense que. Et d'ailleurs, on faisait un petit peu je fais un peu la transition avec le sujet précédent pour tous les végétariens qui consomment des œufs. Je pense qu'ils ont dû être plus angoissés que d'autres pour avoir leur protéines animales, on va dire, tout simplement parce que eux, ils limitent plus les sources que les, comment on dit, les omnivores, les gens qui mangent de la viande et tout ça. Je pense que ça doit être comme ça qu'on dit. Donc, les végétariens ont été plus peut-être soucieux, plus anxieux de cette crainte de la pénurie. Et moi, ce qui me paraît bizarre, encore une fois, c'est que les œufs sont hyper diabolisés encore dans la tête des Français, mais finalement, c'était une croyance, parce que la pénurie montre que non, finalement. Puisque si vraiment les œufs étaient diabolisés, il n'y aurait pas eu de pénurie. Enfin, les gens n'en auraient pas acheté. Alors que là, on se rend compte que quand même, le message a dû passer à force, parce que les gens n'ont pas peur d'acheter des œufs, en tout cas de faire exploser de 60% la commande, on va dire. Donc voilà un petit peu par rapport aux œufs. Si vous étiez craintif, c'est terminé. Vous pouvez recommencer à vous projeter avec ça. Un autre sujet que j'ai vu, c'est, alors j'en avais parlé dans un précédent podcast, je crois, et là je vais un petit peu peut-être me répéter, mais ce sont des choses qui, en fait, je trouve ça paradoxal. Je m'explique. En fait, là, c'est encore une fois sur le régime d'Adèle. Vous savez, Adèle, la chanteuse, là. L'article dit « Le régime d'Adèle déraisonnable, point d'interrogation, un expert tire la sonnette d'alarme ». Alors, un expert. Sur les conseils de son idole Beyoncé, Adèle aurait en effet succombé à la méthode du jeûne intermittent. Donc déjà, vous voyez la façon dont c'est écrit, aurait succombé. Donc ça veut dire que c'était dur d'y résister et qu'elle est tombée comme si elle a succombé à la cocaïne, quoi. Un régime qui promet des résultats plus que rapides, mais qui, comme la grande majorité des régimes miracles, entre guillemets, comporte des risques. Ce qui est durable, ce sont des changements progressifs qui vous permettent de vous en tenir aux améliorations que vous avez apportées, conclut James Collier, qui préconise une alimentation saine et équilibrée sur le long terme afin d'éviter l'effet yo-yo. Alors, je suis tout à fait d'accord avec James Collier. L'alimentation saine et équilibrée sur le long terme afin d'éviter l'effet yo-yo, oui, je suis d'accord avec ça, ça fonctionne. la problématique de beaucoup de personnes et la problématique que des experts, quand ils expliquent ce genre de choses, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de quelque chose de très puissant qui est le facteur de motivation. Qu'est-ce qu'un facteur de motivation? Un facteur de motivation lors d'un régime, c'est l'arrivée d'un résultat. Et un régime sain et équilibré sur le long terme n'apporte pas de résultats suffisamment rapides pour qu'il y ait un facteur de motivation puissant. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont commencer à manger sainement, mais vont manger à leur faim. Et donc, ils vont savoir qu'ils mangent bien, alors c'est cool, mais ils vont dire à quel prix. Et le raisonnement que je rencontre le plus souvent autour de moi, c'est ça sert à quoi de manger sainement? J'arrive pas à perdre un kilo, j'ai toujours mon bide, etc. Donc autant manger de la merde. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de personnes, avant le facteur santé, pensent au facteur physique, visuel, l'image de soi. On dit toujours à s'accepter comme on est, etc. Mais la réalité montre que les gens ne sont pas satisfaits par leur physique, parce que sinon il y aurait pas autant de bouquins, il y aurait pas autant de contenu sur la perte de poids et la prise de muscle, etc. Et donc ça montre bien que les gens veulent changer leur physique, en tout cas l'améliorer pour qu'ils ressemblent de plus en plus à ce qu'ils ont en tête. Et ces régimes que vous qualifiez de miracles, je pense pas que ça soit miracle du tout, parce qu'il y a plein de gens qui font du jeûne intermittent et qui ne perdent pas de poids, parce que dans la petite fenêtre de tir qu'ils ont pour s'alimenter entre 6 et 8 heures, alors je rappelle rapidement, mais le jeûne intermittent, c'est on jeûne environ 16 heures, 14, 16 heures, et puis on s'alimente durant 6 à 8 heures. De la journée, donc ça nous permet d'avoir une période où on mange pas la plus longue possible pour être finalement en catabolisme, hein, et donc de tenter de perdre du poids. Donc le jeûne intermittent apporte des bienfaits, on va dire, au niveau physiologique pour certaines choses, mais aide également à perdre du poids pour certaines personnes, et ça peut être une méthode qui fonctionne. Comme tout régime, ça comporte des risques, et c'est là en fait où je vais mettre un autre bémol, c'est que est-ce que ça comporte des risques d'être en surpoids? Oui. Le surpoids, le tour de taille, est un très gros marqueur de mauvaise santé métabolique, physiologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste le plus longtemps possible en surpoids, donc c'est-à-dire un régime sain et équilibré sur le long terme, c'est-à-dire que peut-être qu'on va mettre 10 ans à perdre son poids, c'est mieux que de faire un petit régime un petit peu plus violent pendant un mois ou deux et ensuite avoir justement ces bons réflexes une fois qu'on a une alimentation saine et équilibrée sur le long terme, une fois qu'on a perdu son poids. Moi, je suis plus de cette école-là. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça me concerne directement. Je vais pas vous recommander à vous qui m'écoutez de faire un régime sain et équilibré pour perdre du poids sur le long terme, alors que moi c'est pas du tout comme ça que j'ai fait. Moi j'ai fait un régime assez restrictif qui se rapprochait de la diète cétogène durant 3 mois, donc j'ai perdu beaucoup de poids. Et ensuite, oui, j'ai eu des habitudes alimentaires modifiées par rapport à avant, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup plus de légumes, beaucoup moins d'aliments transformés, voire plus du tout. Donc mon régime, c'est un mi-chemin entre un paléo et une diète méditerranéenne, et je fais ça sur le long terme. Donc moi, je suis plutôt de cette école-là, parce que je suis convaincu. Alors, dans un monde idéal, je pense que ça serait une bonne technique, mais la réalité montre que les gens vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas avoir de résultats significatifs dans le miroir. Et malheureusement, on sait très bien que les gens fonctionnent avec des résultats rapides. Et les résultats rapides, il faut en tenir compte, parce que même si c'est pas les meilleures solutions, c'est au moins une solution qui permet d'avancer. Donc je sais que c'est pas très c'est difficile d'avoir ce discours-là, hein. Quand je vous tiens un discours comme ça, j'accepte que un régime difficile et restrictif est parfois plus efficace que sur le long terme, et je dis bien sur le long terme, qu'un régime long, tout simplement parce qu'il y aura un facteur d'échec qui sera moindre. Et un régime, alors encore une fois, moi quand je parle de régime restrictif, c'est un régime avec des bons aliments, mais qui est, on va dire, pauvre en énergie, de manière à utiliser les graisses de réserve. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné pour perdre du poids. Je sais très bien que les régimes Une personne qui ne perd pas de poids, on lui donne une alimentation saine et équilibrée. Déjà, il faudrait définir ce qu'est sain et équilibré, parce qu'équilibré, équilibré dans la tête d'un médecin nutritionniste, ça veut dire quelque chose. Mais dans la tête de n'importe qui, équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre son assiette, il va mettre un tiers de légumes, un tiers de viande, un tiers de féculents. Et s'il pousse le truc un petit peu plus loin, il va mettre aussi un tiers de graisse, enfin, il va faire un quart de graisse, un quart de féculents, un quart de viande ou poisson et un quart de légumes. Ça voudrait dire qu'on veut tout équilibrer, même le sucre et tout. C'est complexe, en fait. Il faut que les gens ne comprennent pas ça. Et moi, je pense que ce genre de régime, il peut marcher si la personne est vraiment n'est pas dans une optique de perdre du poids, mais dans une optique d'améliorer sa santé. Donc, elle va commencer à manger plus sainement. Plus elle vient de loin, donc c'est-à-dire que plus elle mange mal, plus elle mange des aliments transformés, etc., plus elle aura de chance avec une alimentation saine de perdre du poids. Pourquoi ? Parce que le régime va être plus fibreux et donc du coup, alors il y aura peut-être plus de viande maigre, etc. aussi, mais il va être beaucoup plus fibreux. Donc il y aura un facteur de qui va couper l'appétit plus longuement, plus riche en eau également, puisque les aliments transformés, souvent c'est des aliments secs, etc. Donc il y aura ces effets-là sur la satiété. Après, ben, tous les micronutriments présents dans l'alimentation saine vont créer moins de demandes par le cerveau, etc., par les organes. Il ne faut pas oublier que la faim est signalée par des hormones, mais aussi par des carences en micronutriments. Une diète, on va dire, occidentale, bien transformée, est souvent pauvre en micronutriments, donc toutes les vitamines, les minéraux, oligo-éléments et tout ça, alors qu'une diète saine, donc c'est-à-dire, pour moi, une diète saine, c'est quoi? C'est une diète avec des aliments non transformés. Alors, une diète méditerranéenne. Fixez-vous en tête une diète méditerranéenne, avec pour le sportif un petit peu plus de protéines et pas trop de céréales, de blé, etc., parce que l'alimentation méditerranéenne aujourd'hui est un petit peu plus complexe avec le blé moderne. Bon, mais en gros, le schéma de la diète méditerranéenne me semble le plus intéressant. Donc, si vous voulez voir, vous regardez, et puis voilà, bah, j'ai même fait des contenus sur le sujet qui sont sur mon site. Donc, bref, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, c'est ça. C'est que moi, je suis plutôt partisan d'un régime qui fonctionne sur le court terme, de manière à donner des résultats, à vous motiver. Et une fois qu'on a les premiers résultats, de commencer à mettre en place finalement cette alimentation de long terme qui va être une alimentation saine, qui va être une alimentation à sa fin et qui va nous permettre de maintenir un tour de taille, on va dire, cohérent. Et cohérent par rapport aux critères de santé. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le surpoids est un... Même si on dit aux gens « acceptez-vous comme vous êtes », etc., bien sûr, mais ayez conscience tout de même qu'un surpoids n'est pas synonyme de bonne santé. Alors, voilà, c'est pas, on n'est pas tous égaux par rapport au tour de taille. Et je parle pas d'un point de vue physique, c'est-à-dire du reflet dans le miroir. Je parle d'un point de vue santé. Une personne qui a plus un poids de corps, je vais dire, adapté à sa taille, etc., sera en meilleure santé qu'une personne, alors on va dire à tous les facteurs égaux sauf le surpoids. La personne en surpoids sera en moins bonne santé que la personne sans le surpoids. Donc, voilà, c'est pas une question de s'accepter dans le miroir, c'est une question de santé. Et je pense que il faudrait faire justement cette balance avantage-risque. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, de rester toute sa vie en surpoids ou de faire un petit régime de quelques mois, un petit peu plus sévère pour perdre ce surpoids et ensuite prendre justement ces bonnes habitudes de vie. Donc moi, je pense que James Collier là dans l'article. Si c'est lui l'expert, je sais pas, préconise une alimentation saine et équilibrée, je suis d'accord avec lui, mais moi la seule différence, c'est que oui, une fois qu'on a perdu son poids, et ça veut pas dire qu'un régime ne peut pas être avec des aliments sains, c'est juste qu'il ne sera pas équilibré dans le sens où il apportera pas suffisamment d'énergie au corps pour fonctionner, et c'est normal puisque le corps va utiliser ses graisses de réserve pour fonctionner, et c'est le but d'un régime. S'il y en a qui n'auraient pas compris, le but d'un régime, c'est ça. C'est pas des aliments qui sont magiques et qui vous font maigrir, c'est en fait l'alimentation que vous avez est suffisamment confortable pour être tenue un certain nombre de temps, tout en étant suffisamment pauvre énergétiquement parlant, on va dire, pour vous donner des opportunités durant la journée d'utiliser les graisses que vous avez stockées à des fins énergétiques, tout simplement. En fait, c'est comme une bagnole où vous essayerez de tomber en réserve. Le but, c'est pas de refaire le plein à chaque fois que le voyant s'allume. Le but, c'est d'attendre quand le voyant s'allume, de rester le plus longtemps possible avec le voyant allumé pour brûler le maximum de réserves et ensuite refaire le plein. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, bon. J'ai terminé pour l'épisode du jour. Je vous rappelle des choses importantes. Sur le site, j'ai écrit un article qui s'appelle « Télétravail, 14 techniques qui vous font rendre productif, qui vont vous rendre productif, pardon. C'est un petit peu le résumé de toutes mes années de parce que moi je télétravaille depuis des années et je vous ai donné 14 techniques pour bien télétravailler, rester productif et ça convient à tout le monde, hein. Enfin tous ceux qui télétravaillent en tout cas, ils vont pouvoir trouver du sens et des petits outils. Et vous allez voir que justement, je parle pas d'applications iPhone, Android, machin, tous ces trucs-là, ça fait faire plus de temps qu'autre chose. Ensuite, il y a les 50 petits déjeuners pour varier les plaisirs du matin, en lien également en description. Et il y a 45 exercices à faire à la maison et sans matériel, parce que vous savez que il faut continuer à s'entraîner. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le lien est en description aussi, par rapport à ça, je sais pas, il y en a qui pensent qu'il va y avoir plus de sportifs à la fin du confinement, d'autres qui pensent moins. Moi, je pense que en fait, les gens ne seront pas les mêmes. Les pros salles de muscu, qui ne jugent que par ça et qui sont anti-poids de corps, etc., il y en a beaucoup qui vont arrêter de s'entraîner. Et d'ailleurs, autour de moi, j'ai eu un retour d'un ami qui m'a dit, il y en a qui disent, j'en profite pour faire une période de repos. Moi, je suis pas pour faire une période de repos quand c'est à durée indéterminée comme ça, parce que ça va être très compliqué pour les plus faibles mentalement ou ceux pour qui le sport était assez difficile de s'y remettre. J'ai vu beaucoup de personnes partir en vacances et jamais s'y remettre. Donc, il va y avoir une partie des gens qui s'entraînaient en salle de musculation qui ne reprendront pas le sport. Et il va y avoir une partie des gens qui ne faisaient pas du tout de sport, qui par l'ennui et le confinement se sont mis au sport et peut-être vont poursuivre après, vont se dire j'ai peut-être envie d'aller en salle parce que je me sens plus à l'aise dans mon corps, dans le sens où je sais de quoi je suis capable, j'arrive à faire mes 10 pompes, j'arrive à faire tout un tas de petites choses. Et donc du coup, il va y avoir peut-être une modification des populations en salle de sport. Je pense pas qu'il y ait une hausse ou une baisse, mais plutôt une modification. Des gens vont arrêter, des gens qui en faisaient vont arrêter, des gens qui n'en faisaient pas s'y sont mis. J'ai oublié de parler d'un truc, je voulais parler du rire. Alors pourquoi j'ai pas mon truc sur le rire? Je voudrais juste rappeler une petite citation de Bigard qui disait « On ne rit pas du bonheur des autres ». Alors c'est pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais en gros, il disait à la fin d'un film d'amour, quand les deux personnes s'embrassent, ils sont amoureux, etc., on n'est pas mort de rire, hein, on pleure, on est plutôt ému. En fait, on rigole plutôt de la petite vieille qui se casse la figure sur une plaque de verglas, parce que le malheur fait rire, en fait. Et il a des meilleurs mots que moi pour l'expliquer, hein, parce que voilà. Mais je pense que pendant cette période, le rire est important, et parce que le rire permet, c'est une très bonne thérapie pour la dépression, par exemple. Et la dépression, elle peut être pour les personnes qui sont seules, chez elles, confinées, etc., ça doit être assez complexe. C'est un gros facteur de dépression. Donc, c'est pour ça que le rire peut être bien utilisé. Donc, je sais pas, alors, si vous avez Netflix ou autre, ou même sur YouTube, vous pouvez trouver des spectacles d'humoristes en libre accès. Mais également essayer de partager autour de vous du rire, de vous marrer avec vos proches au téléphone ou autre. Et ça peut aider et donc du coup moi je vous encourage fortement à vous marrer, quoi. Et même si c'est pas évident pour beaucoup de personnes, notamment à tout le personnel soignant, aux personnes qui ont des proches qui sont atteints du virus. Donc je pense que ces personnes-là ne riront pas du tout des blagues dessus, mais voilà, sachez une chose, c'est que le malheur peut faire rire, et ce rire, utilisez-le pour essayer de vous mettre en meilleure santé, parce que le rire a une action psychologique, mais aussi physiologique positive, donc ça améliore certains marqueurs de santé, donc c'est quelque chose d'intéressant à utiliser. Moi, en tout cas, je prends ma micro-dose de rire avec des petites vidéos qu'on me partage dans la journée. ou alors avec des séries qui me font marrer ou des sketchs ou des trucs comme ça, je trouve que c'est intéressant. Bon bref, voilà, tous les liens que j'ai cités dans le podcast sont disponibles en description et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut.
Faut mettre des gants, faut mettre des gants, faut pas se toucher, faut pas s'embrasser, faut mettre des gants. Il y a plein de façons de se saluer, avec le coude, avec le pied. Le mieux, crois-moi, reste chez toi, c'est plus prudent.